Le journal Léandre Béret.
Bonjour, le stroboscope s'est éteint définitivement à la trappe. La discothèque de Seignolégy a vécu la nuit passée sa dernière soirée comme boîte de nuit. Reportage entre nostalgie et fête dans un instant. Les Prévotois face à la caméra de Bertrand Tebel. Le documentaire Ici c'est Moutier sera diffusé ce soir sur RTS2. Son réalisateur a rencontré des partisans de chaque camp pour saisir l'intensité de la campagne du 18 juin. Stan Wawrinka fait le plein de confiance avant Roland-Garros. Le Vaudois a remporté hier soir le Geneva Open de tennis. Sur la terre battue parisienne, les premiers matchs ont commencé ce matin. Timi Abashinski est en lice. Détail dans le point sport. Du beau et du chaud dans la région. Le ciel restera bien ensoleillé aujourd'hui. Quelques fins voiles d'altitude et des cumulus vont se développer sur les hauteurs au fil des heures. Et quelques orages isolés sont à prévoir dans les franches montagnes. Sinon, les températures vont passer la barre des 30 degrés jusqu'à 31 à Delémont et Moutier. La trappe passe définitivement à la trappe. La discothèque située à Seignolégy a vécu sa dernière soirée. Cette nuit, la fermeture de l'établissement, qui existait depuis 1989, avait été annoncée en décembre. Le district des Franches-Montagnes perd ainsi sa seule boîte de nuit. Le nouveau patron avait repris les lieux il y a 2 ans. D'une part, la fréquentation n'était pas au rendez-vous et d'autre part, le propriétaire du bâtiment a souhaité le vendre. Anastasia Lirti a vécu cette dernière soirée pour nous en compagnie des fêtards.
Alors on me dit que c'est un dernier verre. C'est un dernier mais ça ferme pas. Quoi ça ferme pas?
Ah oui, jusqu'à 6 ans. Jusqu'à ce que tu n'y passes.
Je m'appelle Juan Belair. Ça fait longtemps que je viens ici à la trappe. Moi ça me fait mal au cœur que la boîte va fermer. Quoi. Ouais, moi ça me touche quoi. C'est un bâtiment que j'ai connu vraiment tout au début. Quoi. Changement d'endroit, de DJ, tout.
Vous venez ici depuis les années 90, depuis les débuts?
Ça fait bien longtemps. Ben, je suis venu, je suis reparti, je suis revenu. Là, je vais vraiment jusqu'à la fin, quoi. Vraiment jusqu'à la fin.
Pour montrer votre attachement à la trappe, ce soir, vous avez mis le t-shirt de la discothèque.
Ah oui, tout à fait. Ah, ça, je voulais pas manquer.
Ça fait depuis longtemps qu'on vient tous les week-ends, donc c'est pas la première fois. Puis c'est vrai que ça nous fait mal au cœur que ça ferme parce que c'était notre endroit à nous trois. C'était vraiment notre moment, notre samedi soir, notre fête. Et puis ça ferme, ça nous fait mal au cœur.
Ça fait vraiment mal au cœur, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y faire.
Quels souvenirs vous allez garder ici, des moments passés à la trappe?
Un très très bon souvenir où on est très ensemble, très réunis, ce qu'il y a dans peu de boîtes de nuit. Ce souvenir vraiment d'être tous ensemble puis de faire la fête sans avoir de complexe, de se prendre la tête et quoi que ce soit. Et c'est beau.
C'était l'esprit de la trappe.
Vraiment. C'est vraiment une ambiance vraiment, on est tous ensemble. On se connaît tous, même si on se connaît pas forcément et voilà.
Bonsoir. Vous êtes venu ce soir parce que c'était la dernière soirée?
Eh oui, entre autres, mais oui, c'est aussi parce que c'est un lieu mythique dans la région, tout à fait.
Un lieu mythique qui malheureusement va fermer ses portes ce soir, ça vous fait de la peine?
Oui, parce que je trouve que c'est un lieu qui a amené beaucoup pour les jeunes de la région. Et puis moi je ne suis pas d'ici, mais c'est vrai que depuis que je viens, ça a toujours été un lieu reconnu. Et puis voilà, ça crée une ambiance, un coin aussi pour les jeunes pour se retrouver. Et puis il va manquer quelque chose après, c'est sûr. Les premières fois que j'étais venu, ça s'appelait encore la Licorne, c'était il y a une vingtaine d'années. Alors c'était toute une autre ambiance, c'était des soirées à 300-400 personnes. C'était vraiment l'époque où tout le monde sortait, où tout le monde... Voilà, il y avait une vie.
Ce soir, le public de tout l'art jurassien, vous pouvez pas louper ça. Vive les Franches,
Un trou dans la fenêtre pour entrer dans la maison et la cambrioler. La méthode n'avait plus été vue depuis longtemps à la police cantonale jurassienne, mais elle refait son apparition ces derniers jours dans la région. Les forces de l'ordre précisent que plusieurs propriétés ont été visitées dans des villages proches de la frontière française. Il s'agit toutefois d'un microphénomène selon la police. Il n'y a jamais plus d'un cas par nuit. Les cambrioleurs entrent par une fenêtre, mais ne fouillent pas entièrement la maison. Ils se cantonnent aux pièces auxquelles ils ont accès en ouvrant la fenêtre. Aucune violence n'a été relevé. Des investigations sont en cours et un dispositif de surveillance a été mis en place. Si vous entendez des bruits durant la nuit ou observez quelque chose de suspect, la police cantonale recommande de ne surtout pas intervenir, mais de l'appeler au 032 420 65 65. Tombée de rideau pour la communauté religieuse An-Nour, qui chapeaute la mosquée controversée du même nom à Winterthur. L'information a été publiée ce matin dans le Sonntag Blick. Ces lieux ont fait couler beaucoup d'encre, des agressions y ont eu lieu, des partisans de l'État islamique l'ont fréquenté et un prédicateur avait appelé au meurtre de musulmans non pratiquants. La fermeture de la communauté An-Nour est prévue à la fin du Ramadan, soit dans un mois. Des files de voitures commencent à se former au sud du Gothard. Les vacanciers qui ont fait le pont de l'Ascension devaient déjà prendre leur mal en patience ce matin. Vers 10h30, la colonne atteignait déjà 5 km, ce qui représente un retard d'une heure et 15 minutes. Selon Via Suisse, les bouchons promettent d'atteindre jusqu'à 12 km dès 14h environ, et cela jusque vers 22h. Les automobilistes devront patienter au moins 3 heures avant de retrouver un meilleur rythme. Le Sri Lanka subit des inondations catastrophiques. Au moins 146 personnes sont mortes et 500 000 ont été contraintes de se déplacer à cause des intempéries. Les secouristes sont à pied d'œuvre aujourd'hui pour tenter de distribuer une aide aux sinistrés. Des équipes médicales ont été envoyées dans les zones les plus touchées pour tenter d'empêcher l'apparition de maladies comme le choléra. Les Nations Unies ont annoncé qu'elles enverraient des conteneurs d'eau et des tablettes de purification de l'eau. La fermeté de la poigne d'Emmanuel Macron était symbolique. Le président français a affirmé dans la presse dominicale que sa poignée de main avec Donald Trump lors du sommet de l'OTAN n'était pas innocente. Les deux chefs d'État se sont serrés la main durant de longues secondes jeudi à Bruxelles sous forme de duel avant que le président américain ne lâche prise. Emmanuel Macron parle d'un moment de vérité. Pour lui, il faut montrer qu'on ne fera pas de petites concessions, même symboliques.
Le magazine.
10 mois d'immersion avec les Prévôtois. La RTS diffuse ce soir à 20h30 sur RTS2 un documentaire intitulé « Ici, c'est Moutier ». Le réalisateur Bertrand Thebet est né à Porrentruy et vit depuis 40 ans à Genève. Il a toujours gardé un œil sur la question jurassienne et quand on lui a proposé de se plonger dans le bouillonnement précédant le vote communaliste, il a posé sa caméra sur son épaule et est parti sur le terrain. Depuis juin dernier, Bertrand Thebet s'est donc immergé chez les Prévôtois et il nous explique sa démarche.
C'était déjà de me dire, il y a une sensibilité qui est peu connue au fond, c'est celle des personnes qui se revendiquent d'être des jurassiens bernois. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai l'impression qu'on a, dans tous les reportages que la TV en particulier a pu réaliser sur cette question jurassienne, la parole qui était donnée aux gens de la base, au fond, qui se revendiquent d'être jurassiens bernois, ouais, elle n'est pas tellement relayée finalement. On a rarement été au contact, si vous voulez, de gens autres que les leaders historiques, si vous voulez, pour moi. Et puis donc c'était aussi l'idée de me dire, qui sont-ils? Où sont-ils? Comment ça fonctionne? Comment leur pensée s'articule, si vous voulez? Et puis il y avait cette idée aussi qui m'intéresse, et puis qui m'intéresse globalement, en général, sur la question du regard sur le monde qu'on a aujourd'hui. Moi j'ai un mot-clé qui revient très souvent dans mon travail, c'est la notion des frontières. J'ai dessiné sur une carte aux 25 000 les frontières communales de Moutier. Je me suis dit, c'est intéressant, il y a une ferme là, il y a une autre ferme là. Tiens, c'est bizarre, il y a Roche qui est une espèce une commune qui reste en dehors de ce vote. Enfin, donc ça m'a, en analysant un petit peu les cartes, on découvre plein de choses comme ça qui nous donnent envie d'aller y voir de plus près. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'école de la montagne de Moutier, par exemple, l'ancienne école de la montagne de Moutier. Et puis, en parlant avec les gens, ça a créé comme ça tout un réseau de gens, qui sont des deux bords d'ailleurs, mais où on peut observer au fond que l'ancrage jurassien-bernois, il se situe beaucoup justement dans ces zones périphériques au fond. Et il est moins identifiable au fond au cœur même de Moutier.
On parle souvent d'une différence culturelle entre autonomistes et pro-bernois. Est-ce que vous l'avez ressenti et finalement, comment elle se matérialise?
Alors, c'est toujours... on peut l'expliquer de cette manière-là. C'est mon expérience. C'est pas, je suis pas sociologue, je suis pas anthropologue, je suis pas scientifique dans mon approche, si vous voulez. Sur le plan humain, dès le moment où on est en relation avec des personnes dont on sait qu'ils ont des sympathies plutôt pro-bernoises, donc ils vont plutôt voter non dans cette campagne, mais vraiment, on est hyper bien reçus, hyper bien accueillis. Il n'y a vraiment aucun a priori, alors que moi, je me présente comme étant né à Porrentruy, et puis je ne vais pas leur raconter des sornettes. Je veux dire, j'ai un patronyme qui n'est pas... Enfin, voilà. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, on peut parler politique, on peut parler de plein de choses, etc. Mais dès qu'on entre sur la question de Moutier et de l'enjeu du vote du 18 juin, il y a un blocage. Il y a un blocage. Par contre, on peut le prendre par un autre biais. On peut essayer de se dire, moi, vous êtes plutôt ceci, vous êtes plutôt ça, vous, pourquoi vous apprenez l'allemand à vos enfants, pourquoi... Si on regarde la question sous l'angle société, vivre ensemble, participer à la vie publique, etc., et tout, y a, tout va bien. Et c'est très étrange.
C'est ça, c'est de culture, finalement, elles arrivent à vivre ensemble, à Moutier.
Mais complètement. Et puis, on s'envoie des fions, mais c'est jamais méchant, ni agressif, ni... comme ça, on respecte le fait que l'autre peut penser autrement. Mmh. Et ça, ça fonctionne à Moutier.
Comment vous avez ressenti, finalement, l'ambiance générale à Moutier ?
Alors, moi, je me mettrais du côté de celui qui se dit, quoi qu'il arrive le 18 juin, je pense que ça va créer un électrochoc. Et ça ne pourra que faire avancer les choses. Maintenant, ce sera une question d'attitude des uns et des autres par rapport à comment la victoire ou la défaite est assumée par les uns et les autres. Ça, c'est clair. Mais ce que j'entends par là, c'est de dire que, quoi qu'il arrive, il y aura eu un électrochoc. Je ne suis pas sûr qu'il y aura eu un débat, cela dit, mais il y aura eu un électrochoc.
Le documentaire « Ici, c'est Moutier » sera donc diffusé ce soir à 20h30 sur RTS2.
Sport.
Stan Wawrinka débloque enfin son compteur, Mathieu Schaffner.
Oui, le joueur de tennis vaudois a fait main basse hier sur le Geneva Open. C'est son premier titre de l'année. Stan Wawrinka a dominé l'Allemand Misha Zverev en finale. Victoire en trois manches, 4-6, 6-3, 6-3. Le Suisse remporte le tournoi genevois pour la deuxième année consécutive. Stan Wawrinka.
C'était une semaine de rêve, malgré la difficulté dans les rencontres. Ça a été chaque jour avec énormément de soutien, un gros public complètement, pas complètement différent, mais je dirais beaucoup plus que les années précédentes. Vraiment, j'ai été surpris dans la manière dont j'ai été accueilli et je suis vraiment très content et très heureux d'avoir eu ce public aujourd'hui et tout au long de la semaine. C'est un très beau titre. Vraiment, les titres sont toujours particuliers. Gagner en Suisse, mon premier de l'année, ça reste des émotions très fortes. Maintenant, voilà, j'ai fait le plein de confiance. J'ai retrouvé la confiance qui me manquait un peu sur terre battue pour l'instant. Maintenant, ça a été une semaine éprouvante physiquement et mentalement, donc il faut essayer de récupérer dans les deux prochains jours pour tout de suite attaquer du mieux possible Roland-Garros.
Stan Wawrinka qui va mettre le cap sur Paris et Roland-Garros. Son entrée en lice est prévue mardi. Timea Bachinski est-elle déjà sur le court dans ce tournoi du Grand Chelem ? La Vaudoise affronte en ce moment l'Espagnole Sara Sorribes Torma au premier tour. Elle a remporté la première manche 6-1 et elle mène 4-1 dans le deuxième set. Une autre Suissesse sera engagée aujourd'hui sur la terre battue parisienne. Victoria Golubic doit se mesurer à la Biélorusse Alexandra Sasnovic. Ce sera vers 18h30. Anthony Siroufot poursuit l'aventure à la tête du FC Basse-Cour. Le technicien français sera encore l'entraîneur du club jurassien de Première Ligue de football la saison prochaine. Le président Albert Luzat nous l'a confié ce matin au lendemain du maintien de son équipe. Néo-promu, le FCB a terminé son championnat juste au-dessus de la barre. Albert Luzat.
L'objectif est entièrement atteint parce qu'on est monté, parce qu'on était meilleur, on était les premiers. Mais la Première Ligue, c'est quelque chose d'autre que de la Deuxième Ligue Inter. C'est vraiment incroyable. Il faut être prêt, il faut être préparé, il faut avoir la mentale de fou. Et on a tenu ce qu'il fallait tenir, juste, mais on s'en est sorti. On n'a jamais été relégable directement pendant toute la saison. Mais on a toujours frôlé cette barre les deux derniers. On est sorti, on est heureux.
Ça signifie que le FC Basse-Cour a beaucoup appris sur cette saison ?
Ah oui, alors ça c'est sûr qu'on a beaucoup appris et on a beaucoup retenu. Hein. On va appliquer ce qu'on a retenu et ce qu'on a appris durant cette prochaine saison. On va changer un petit peu certaines habitudes qu'on avait prises et on va les mettre en application.
Le FC Moutier peut aussi assurer mathématiquement son maintien. Il se rend à Bâle cet après-midi à 15h. Le FCM va défier Timahou en deuxième ligue interrégionale. Vic ne jouera plus en deuxième ligue la saison prochaine. Le FCV est relégué après sa défaite d'hier face à Lys 5-1. Courgenay a conforté sa deuxième place en partageant l'enjeu avec Nido un partout. Develier a fait un pas de plus vers le maintien en accrochant Arberg 2-2. Azzouribien s'est lui mathématiquement sauvé en l'emportant à Courtetel 2-1. Et puis la fin de saison vient d'être sifflée dans le groupe 8 de 3e Ligue. La dernière journée s'est jouée ce matin. Tout était déjà dit pour la place de finaliste et les équipes reléguées. Le leader Cornol a ainsi été accroché par Porrentruy un partout. Bure termine au 2e rang après s'être imposé à Lunier d'Onfreux 2-0. Otageois empoche la 3e place grâce à son très large succès sur Chevenay, 10-1. Soyères boucle l'exercice sans aucun point au compteur. Les Vadets se sont inclinés à Failly 6-2. Et puis le match entre Fontenay et Glovelier n'a pas été disputé. Le FCF a renoncé à s'aligner. Le SHC Rosmaison est le nouveau leader de Liga d'Inline Hockey. Les Vadets ont pris la mesure de Bienne Landers 11-6 hier dans le Jura. Ils s'emparent des commandes du championnat au détriment de leur adversaire du jour. Et ceci grâce à une meilleure différence de but. Bienne Skater 90 chute au 5e rang après sa défaite à Sayaluka 10-5. Buis reste 8e malgré la fessée reçue sur la piste de Rotrist 13-1. Et du côté de la Ligue B, la Baroche est toujours lanterne rouge. Les Ajoulots ont été dominés par la Tour 6-1. Jeremy Hunt triomphe sur la Narcisse Run. La Joulot a remporté la toute première édition de cette épreuve de course à pied hier soir à Danvant. Il a bouclé le tracé de 10 km en 33 minutes et 46 secondes. Jeremy Hunt a précédé le courtisan Michael Morand et le franc-montagnard Raphaël Chenal. Côté féminin, la victoire est revenue à Morgane Croza à travers les champs de Narcisse et le Préhisto Park. La citoyenne de basse-cour a signé un temps de 40 minutes 34 secondes. Elle a pris le meilleur sur la Joulotte Carmen Valla et la Vadez, Christelle Ria. Cette première édition de la Narcisse Run a réuni plus de 300 concurrents, toutes catégories confondues. Carolina New à la peine en Autriche. La Biennoise pointe au 18e rang de l'heptathlon de Götzis. Elle a disputé hier 4 épreuves. Le jurassien Jonas Fringeli a dû lui jeter l'éponge. Il a abandonné sur le décathlon masculin après 2 disciplines. Grégoire Saucy a lui connu le même sort à Monaco. Le pilote jurassien n'est pas arrivé au terme de la deuxième course du week-end. Ce matin en Formule Renault Eurocup, il a été victime d'un petit accrochage qui l'a empêché de poursuivre l'épreuve. Grégoire Saucy avait pris le 20e rang de la première course hier. Cette épreuve de Monaco se dispute en marge du Grand Prix de Formule 1. Et puis un petit coup d'œil à Paris avec la rencontre entre la Suissesse Timea Bachinski et l'Espagnole Sara Sorribes Tormo. C'est le premier tour de ce tournoi de tennis du Grand Chelem. La Vaudoise est en passe de se qualifier. Elle a remporté la première manche 6-1 et c'est désormais 5-2 pour Timea Bachinski dans le deuxième set.
L'actualité s'étend tout temps sur RJB et RFJ.ch. Du soleil pour ce dimanche, accompagné de températures bien élevées. On va atteindre 29 en Ajoie, 28 à Saint-Imier-Tavannes ou encore 29 à Bienne-la-Neuville, 25 au meilleur de la journée aux Franches-Montagnes ou même 31 degrés dans la vallée de Delémont et la région de Moutier. Vous voyez qu'il va faire bien chaud. Des voiles d'altitude vont se développer au fil des heures, accompagnés de cumulus. Quelques orages isolés l'après-midi sont prévisibles, notamment dans les Franches-Montagnes, pouvant localement déborder en plaine. Pour demain, du soleil et forte chaleur avec 25 degrés à 1000 mètres d'altitude. Des orages seront possibles dans le courant de l'après-midi.